gueule.
En fait, le gouvernement veut durcir la loi face aux squatteurs et loyers impayés. Bref, il souhaite protéger davantage les propriétaires, d'où cette proposition de loi. Mais ce n'est pas du goût de la gauche et des associations qui protègent le logement en particulier.
Alors, l'auteur de cette proposition de loi s'appelle Guillaume Casbarian. C'est un député de la majorité, député Renaissance. Il dit qu'il a reçu des dizaines de témoignages de petits propriétaires en contentieux depuis parfois 2, 3, voire 4 ans avec leurs locataires qui ne payent plus. Et beaucoup de ces petits propriétaires s'indignent de voir finalement les squatteurs bénéficier de la protection de la loi. Il veut donc être plus sévère contre ces squatteurs. Il propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison. Il veut également que la justice aille plus vite parce que ces délais, effectivement, sont insupportables. Et donc, le texte réduit la durée de la procédure judiciaire et prévoit que certains délais pouvant être accordés par un juge ne soient désormais envisageables que si le locataire en fait lui-même la demande. Bref, se passer d'un juge en quelque sorte. Alors, voilà ce que dit donc ce député. Puis de l'autre côté, on a la Fondation Abbé Pierre, on a des députés de gauche qui disent que cette loi va fabriquer du SDF et qu'au moment où les temps sont difficiles, il ne faut pas en rajouter, il faut protéger au contraire le locataire.
Est-ce que je peux rappeler l'état du droit actuel? Voilà. Parce qu'actuellement, si on est squatteur, on encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Si jamais moi j'ai un squatteur et que je l'expulse manu militari, j'encours 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ça veut dire qu'on fait primer le droit au logement sur le droit de propriété finalement. Sachant que quand on les met au tribunal, les squatteurs, ils sont, on s'en doute, insolvables. Donc c'est particulièrement honteux parce qu'une fois aussi qu'on a la décision de justice, il faut la faire exécuter. Il faut le concours de la force publique. Ça met encore des mois. Tout cela entrecoupé par la trêve hivernale. Moi je connais la tante d'une de mes clientes qui avait besoin du loyer pour payer son propre loyer, eh bien, elle s'est retrouvée en domicile précaire à vivre chez d'autres personnes. Donc, c'est parfaitement scandaleux. Donc, tous ces donneurs de leçons de gauche, ces gauchistes EELV, je les invite aujourd'hui à prendre chacun un SDF ou un migrant chez eux, voilà, dans leur lit, comme ça.
Dans leur lit, carrément.
Bah oui, non, mais autant, je veux dire, on n'est pas en URSS, là.
Après, il y a des gens qui ne peuvent plus payer et qui sont de bonne foi. Alors, il n'y a pas que des malhonnêtes.
Non, mais là, on parle des malhonnêtes. Alors, j'aimerais aussi parler d'un.
Alors, quand tu interroges les associations, elles te disent que ces malhonnêtes sont minoritaires.
Non, mais est-ce que je peux parler aussi d'un arrêt de la Cour de cassation qui m'a particulièrement marqué? C'est un arrêt qui a été rendu donc en septembre, donc assez récemment. C'est un arrêt selon lequel c'est un locataire qui a poursuivi le bail alors qu'il aurait dû quitter les lieux. Et cet arrêt, il est très frappant parce que la Cour de cassation affirme que même si un locataire cesse de payer et refuse de quitter les lieux, en l'espèce, il y avait une décision, un logement doit continuer d'être entretenu par son propriétaire. Donc, la locataire qui devait partir a fait une chute à cause d'un défaut d'entretien. Elle a attaqué le propriétaire qui a été condamné à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et pourtant, elle ne paye plus son loyer.
Elle ne paye plus son loyer. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à une situation particulièrement ahurissante? C'est remonté jusqu'à la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France. C'est un scandale. Ça veut dire qu'elle ne peut plus récupérer son logement et la locataire qui aurait dû partir a l'outrecuidance de l'attaquer parce qu'elle est tombée face à un défaut d'entretien. Voilà l'état du droit actuel. Donc on fait primer ces délinquants, parce que c'est une forme de délinquance, sur le droit de propriété. Quand on a travaillé toute sa vie pour payer un logement, on n'a pas à subir ce genre de situation.
Monsieur Marty Jérôme, docteur.
On en a parlé à plusieurs reprises. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tu rentres dans un logement dit vacant, mais qui appartient à quelqu'un, tu changes les serrures, tu es chez toi, quoi. On marche sur la tête.
C'est le droit qui est mal fait.
Alors après, il y a deux choses.
Alors que si le propriétaire change les serrures,
il est condamnable.
Il est condamné. Mais il y a deux choses. Il y a les gens qui s'emparent comme ça de logements vacants et qui font un viol de propriété en quelque sorte. Et puis tu as les gens qui effectivement ont des difficultés économiques, ne paient plus leur loyer. Et traditionnellement, on avait une période hivernale qui courait sur 6 mois.
Elle sera maintenue par la loi.
Mais ils veulent la réduire, je crois.
Non, je crois que ils veulent pas la bouger.
Ce qui est certain, c'est que dans ce pays, on a 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qu'il y a une fragilisation avec
des paiements de loyer ou des remboursements.
Avec un pays qui devrait avoir des.
Ouais, mais est-ce que c'est aux propriétaires de s'en soucier?
Non, je suis en train de te dire, on devrait avoir une vraie politique du logement avec des logements qui sont laissés à ces gens qui ne peuvent plus payer leur loyer ou à ce moment-là, on leur permet de trouver un logement.
Attends, parce que ça rejoint ce que disait Olivier tout à l'heure. La fameuse garantie universelle de loyer devait être mise en place,
ça n'existe pas.
Jamais
non, été mise en place. Mais surtout quand on fait une loi, c'est pour l'appliquer.
Oh, ça dépend, tu sais.
Non, mais à l'évidence, rare, en fait, hein. À l'évidence, les gens qui captent un logement vacant ou qui ne paient plus leur loyer ne sont pas solvables. Et là, on te dit qu'on va leur mettre combien de 45 000 euros d'amende.
En fait, on envoie d'aligner les deux régimes. Ça veut dire
oui,
que.
Oui, j'ai bien compris.
Oui, mais ils sont pas solvables.
Sauf que c'est pas applicable. Ils sont pas solvables. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, quoi. On ferait mieux de s'attacher à construire des logements pour les réserver provisoirement à des gens qui, quand ils sont dans la panade, ne peuvent pas payer leur loyer et ne peuvent pas précipiter comme ça, dans la pauvreté, comme tu le disais, les gens qui sont propriétaires, parce que ça arrive. Tu as des gens qui sont propriétaires qui sont à deux doigts, eux, de basculer.
Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on avait fait de bons débats dans les GG, Didier s'en souvient. On avait mis en place le droit au logement opposable, c'est-à-dire une espèce de garantie que tout le monde aujourd'hui est un toit. Tu te souviens?
Ouais,
on voit bien que ça n'a pas fonctionné.
Mais
on voit
qu'on est arrivé au bout. Ça a fait plaisir à ceux qui l'ont décidé. C'était du temps de Villepin, je me souviens. Ouais. Mais effectivement, c'est pas donné les moyens de l'appliquer.
Non, alors on ne construit pas.
C'est des lois de bonne conscience.
À mon avis, dans cette histoire-là, il y a plusieurs catégories. Tu l'as dit qu'il faut distinguer. Il y a des gens qui occupent un logement de mauvaise foi. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer de bonne foi. Oui. À mon avis, ça nécessiterait quand même de trier là-dedans.
D'ailleurs, on pourrait supprimer la trêve hivernale pour ceux qui ne sont pas de bonne foi.
Bah voilà.
Mais alors le critère de bonne foi.
Attends, je comprends pas qu'un type malhonnête bénéficie de la trêve hivernale. Non, mais
quand
ça
tu commences à changer les serrures,
on peut loger en prison.
Alors que t'as injonction de quitter les lieux,
on
peut loger en prison.
Il y a ça, et je rappelle aussi que dans ce pays, il y a quand même des communes qui paient des amendes pour ne pas construire de logements sociaux. Oui. Quoi. Bah, faut le dire, quoi. Il y a aussi un regroupement de la pauvreté qui se fait à certains endroits. Il y a aussi des gens qui trient qui sont leurs locataires dans les HLM. Et je pense que on peut pas demander aux propriétaires privés de pallier aux carences de ce qu'est les collectivités territoriales.
Et puis tu peux pas avoir le territoire d'exclusion, quoi.
Bah, c'est exactement ça. Et dire aujourd'hui. Durcir cette loi, ça va créer des SDF. À mon avis, c'est pas systématique. Même si ça va y contribuer, je pense qu'il faudrait mieux aller dans le durcissement de la loi pour ceux qui abusent.
Oui,
quoi.
Mais tu vois, c'est un combat idéologique, Didier, parce que on voit bien la droite.
Oui, c'est un combat idéologique.
Va sans doute.
Et faudrait pas que ça soit un combat idéologique.
Permettre à ce député de faire passer sa loi grâce au RN et au LR, et puis la gauche est vent debout. Oui. Donc la gauche se met du côté. C'est un peu même caricatural, c'est-à-dire que la gauche se met du côté des locataires.
Oui.
Et la droite du côté des propriétaires. Donc pour la gauche, le propriétaire est un salaud, et pour la droite, en gros, le locataire est un fumiste.
C'est ça.
On en est là, quoi. Et hier, quand tu interroges quelqu'un de la Fondation Abbé Pierre, t'es un peu renvoyé. T'es un peu un facho si tu dis simplement le propriétaire, il a pas à subir le fait que le locataire se comporte pas.
À mon avis, plus compliqué que le projet.
Mais quelque part, ça a du bon, tu vois, parce qu'on avait oublié cette bipolarité politique. On avait oublié avec Macron. On avait oublié ça. Là, on y revient. Donc,
tu vois,
bienvenue dans les années 80. Non, c'est pas mal. Ça nous rappelle la jeunesse.
Non,
en dehors de la blague, Jérôme, moi, j'ai déjà alerté à ce micro. Le fait qu'aujourd'hui il faille changer la loi, parce que le fait qu'un locataire qui est rentré, on ne puisse plus jamais le virer, si ce n'est après des années de procédure, ça fait en sorte que en milieu rural, et là je parle d'un truc très spécifique, en milieu rural, il y a plein de maisons qui sont à l'abandon parce que les gens préfèrent les laisser à l'abandon plutôt que de prendre locataires.
Oui, voilà,
tout simplement.
Il y en a beaucoup des maisons vers chez toi comme ça.
Soit les quelqu'un décède, soit les héritiers y vendent. Où ils peinent à vendre, soit les maisons sont fermées.
Et j'aimerais aussi qu'on
parle beaucoup de squatter vers chez toi ou pas.
Non, je pense que c'est un phénomène. Je pense qu'il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Ça doit pouvoir arriver. Mais des squats manu militari en cassant les serrures, rentrer dans les maisons,
C'est pas normal que la justice mette autant de temps à régler ces
problèmes. Non, mais la justice a un problème de lenteur dans tous les aspects. Quand vous demandez, par exemple, si demain tu divorces, je ne te le souhaite pas, on aura peut-être une audience fin 2023. Donc,
la justice, parce que là, c'est vraiment la justice du quotidien. C'est vraiment des problèmes des gens.
C'est ce qu'il y a de plus long. Après, j'aimerais
moi, ce que je ne comprends pas, explique-moi, parce que, par exemple, je trouve que la justice va vite quand il y a des trucs de diffamation, des trucs un peu médiatiques.
Non, ça va pas vite. Juste le délai de prescription est très court.
Ah oui.
Il est très court.
Parce que sur la justice du quotidien, il faudra accélérer les procédures.
Oui, mais quand on accélère, par exemple, en pénal, en comparution immédiate, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses non plus. Là, j'aimerais aussi parler d'une chose, c'est les personnes qui héritent d'un logement qui est squatté. Parce qu'il y avait eu une affaire il y a quelques années où une dame avait fait une tentative de suicide devant la mairie de Paris parce qu'elle n'arrivait pas à récupérer le logement squatté dont elle avait hérité. Donc ça veut dire que vous payez des droits de succession sur quelque chose qui est squatté. Donc ça, c'est une situation aussi dont on parle pas assez. Et je trouve que c'est quand même scandaleux. Mais je reviens sur ma proposition initiale. J'aimerais que les députés de la NUPES hébergent chacun un SDF parce que je pense que ce serait la solution. Parce que tous ces beaux donneurs de leçons avec leur discours gauchiste et EELV, eh bien, ils pourront accueillir dans une chambre d'amis, je suis sûre qu'ils en ont une dans leur duplex à Montmartre, ils pourront accueillir un migrant ou un SDF.
C'est Franck qui veut discuter avec nous, il est dans le 17e arrondissement de Paris. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Vous voulez parler de votre cas particulier, dites-nous.
Oui, alors, de manière générale, parce que je vous ai entendu sur la question du logement. Bon, alors, c'est vrai que c'est toujours le même discours depuis des années et des années, quel que soit le gouvernement qu'on a, de savoir si on expulse, on n'expulse pas, quand est-ce qu'on expulse et autres. Bon, alors, moi, je vais vous dire une chose, déjà, c'est que si la loi était appliquée, il y aurait peut-être plus de bailleurs qui mettraient leur logement sur le marché.
C'est vrai.
Alors, ça ne réglerait peut-être pas la question du logement.
Ouais, mais la concurrence fait que ça baisserait le prix, quoi.
Oui.
Mais, et en plus, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en plus, vous auriez de la concurrence et les prix des loyers baisseraient. Ça, c'est le premier élément. Pendant longtemps, on nous a parlé du logement social. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, on a toujours, chaque année, alors un peu moins maintenant, des scandales sur tel élu qui est dans un logement social ou pas.
C'est pas faux.
Déjà. Troisièmement.
On en a une récemment, non?
Ouais, tout à fait, avec une élue à la fille, je crois, Madame Simonet. Ouais.
Toujours dans les bons coups.
Voilà, toujours. Mais alors là, je dirais que à gauche et même à droite, à une époque, on entendait les Tibéri qui avaient toujours des logements et tout ce qui suit. Bon, bref. Et cette question d'urgence, elle revient toujours. Moi, je vais vous parler d'un cas particulier. Moi, je suis squatté, mais il faut savoir une chose, c'est que les tribunaux sont assez hypocrites. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un squat? C'est au bailleur de démontrer que la personne est entrée illégalement. Donc, moi j'ai un cas où une personne est rentrée dans un appartement qui était en travaux. Mais il devient, parce que les squats sont bien plus intelligents que certains magistrats,
ils mettent les factures EDF à leur nom.
Il est à nous. Voilà, alors il y a les factures, il y a autres, mais il devient occupant sans titre. Donc, comme il est occupant sans titre, il n'est pas squatteur. Donc, vous avez des décisions, bien sûr, d'expulsion. Moi, j'ai par exemple un cas où j'ai une décision d'expulsion qui date d'il y a 3 ans. C'est énorme, quand même.
Et vous avez du mal à la faire exécuter parce que le préfet...
Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'on a des décisions d'expulsion. On a une date donnée par la préfecture de police, mais qui est toujours annulée une heure avant.
Pourquoi?
Parce qu'il y a la loi d'Allo.
Pourquoi? Voilà, très bien. Parce qu'il y a la loi d'Allo. Donc, en fait.
Droit au logement opposable.
Le droit au logement opposable. Comme se crée cette notion de droit au logement opposable, donc le locataire bénéficie du DALO, donc le préfet de police annule la décision d'expulsion. Donc, ce n'est inexpulsable. Et sur cette loi-là, moi, je vais vous dire une chose. Alors qu'on sanctionne plus, OK, mais la réalité, vous connaissez un squatteur en France qui a été condamné pénalement? Ça n'a jamais existé. Alors, il faudrait peut-être déjà appliquer la loi. Ça sert à rien de ressortir d'autres lois. On a toujours une tendance à sortir des lois qui donnent l'impression, en fait...
C'est ce que l'on appelle des lois bavardes.
Tout à fait. Oui, on va pénaliser encore plus le squatteur, mais ce n'est pas vrai. On n'applique déjà même pas la première.
Mais Franck, vous avez réussi à faire sortir ce squatteur ou pas?
Ben non, pas du tout, parce qu'on est reparti sur une période...
Mais alors, attendez. Donc, je voudrais qu'on résume ce qui s'est passé pour vous. Vous aviez un appartement qui était en travaux, d'accord?
En travaux, le squatteur rentre dans l'appartement.
Comment il a réussi à rentrer?
Il est rentré, il a cassé la porte, il est rentré.
Mais ça, c'est une effraction, ça.
Ah oui, mais vous savez.
Et comme il l'a réparé derrière.
Il a refait sa porte comme il voulait.
Mais vous n'avez pas pu le dégager vous-même?
Là, pour le coup, il y a une vraie sanction qui sera appliquée.
Par contre, si vous le faites, là, vous avez une vraie sanction. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Là, ça rigole pas pour le coup.
Ça m'est déjà arrivé.
Et là, par contre, vous êtes plus. Alors, je vais vous dire un truc. Là, vous êtes convoqué immédiatement au commissariat de police.
Là, vous êtes.
Franck, vous êtes convoqué. C'est-à-dire que le type, il est capable d'aller porter plainte.
Oui. Bien sûr.
Le problème, il y en a des. Petite demande de renseignement encore, Franck. Le squatteur, son profil, quel âge, homme, femme, que fait-il?
Alors, écoutez, il est pas en famille, parce qu'a priori il est séparé, il vit seul. Comment dire? En plus, moi, ça a été très loin, parce qu'il a fait un recours. Enfin bon, bref.
Il est costaud.
Il a fait un recours.
Mais je vais vous expliquer, parce qu'après, quand un squatteur reste plus de 2 ans dans un appartement,
c'est un ancien magistrat,
en fait. Il vous dit. Non mais attendez, il vous dit, mais moi, j'ai commencé à prendre des habitudes de vie dans ce quartier. Eh oui. Des habitudes de vie dans l'immeuble.
Des amis, c'est que des amis.
Et que la personne va défendre le fait.
Ah oui, du coup, je connais.
Il fait des soirées.
Le fait que vous n'avez pas d'urgence, parce que c'est pas mon appartement, ce n'est pas ma résidence principale. Donc elle dit, il n'y avait pas d'urgence à ce qu'il obtienne. Mais moi, je voudrais rajouter un point qu'il faut que tout le monde sache, parce que c'est très important. Vous avez, quand vous avez une décision d'expulsion, le tribunal fixe une indemnité. Qui est bien loin, une unité d'occupation, que la personne ne paye jamais, puisque la personne dit qu'elle était
arnaquée. C'est ce qui revient au loyer qui aurait dû être payé.
Tout à fait. Elle dit qu'elle aurait été arnaquée, mais qu'elle a payé des sommes, mais quand c'est vous, elle connaît le bailleur, elle ne vous paye jamais. Mais bon, bref, il y a une somme qui est fixée. Alors l'État vous dit, vous avez un recours possible. D'ailleurs, le montant qui est fixé n'est jamais le prix du loyer normal. Vous avez un montant qui est payé, mais vous rendez compte que ça fait 3 ans que vous devez demander chaque mois à l'État le paiement. Oui. Est-ce que les personnes savent, est-ce que les Français savent combien ils payent là-dessus?
Ouais, c'est n'importe quoi, mon cher Franck. Bon courage à vous, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter dans les GG, dans les grandes gueules.
Sincèrement, on serait tenté, quand ça arrive,
de le faire soi-même.
On est d'accord.
Non, mais là, Didier. Tu peux demander une garde à vue tout de suite. Hein.
Merci Franck. Dans un instant, Christophe, il est en Seine-et-Marne, il est en invalidité et il a une ou deux petites histoires à nous raconter aussi. Alors, cette loi qui doit protéger le propriétaire, loi dite anti-squatteur, attention aussi à ce qu'elle ne fabrique pas des SDF et de la précarité, c'est peut-être le danger. Et on en parle avec vous au 32-16, il est 10h20, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est l'heure des GG. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'avocate Sarah Salman, le médecin généraliste Jérôme Marty, l'agriculteur de Saône-et-Loire Didier Giraud. On parle de la loi présentée comme une loi anti-squat pour protéger les propriétaires. C'est Christophe qui veut réagir au 32-16, il nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous vouliez nous parler de votre exemple concret, Christophe, alors.
Oui, alors je vais vous expliquer, ne me coupez pas, vous allez vite comprendre. Donc bah voilà, bah moi à 33 ans, je travaillais depuis l'âge de 14 ans, j'ai travaillé très dur pour y arriver, je suis un autodidacte. Donc j'ai pu payer mon bien principal cash. Mm-hmm. Et à cette époque, il y avait la loi d'Eurobien qui nous offrait des appartements à loyer modéré. Et voilà quoi. Donc j'ai acheté 2 appartements à loyer modéré. Oui. Donc qui me coûtaient, ces 2 appartements me coûtaient une certaine somme tous les mois, plus les charges. J'ai eu 7 locataires au total sur les 2 appartements. Certains ont payé pendant 2-3 mois, après ne payaient plus. Donc pour les mettre dehors, c'était toute une histoire.
Ils ne payaient plus parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient en difficulté, ou ils ne payaient pas simplement par malhonnêteté?
C'est par malhonnêteté, je pense. D'accord. Parce que tous ces gens-là sont malhonnêtes, je pense. Parce qu'ils refusent le dialogue. Et donc, j'ai pris un avocat. Ça a duré 3 ans, l'histoire. Ça m'a coûté une fortune, l'avocat. Mais bon, c'est normal, c'est les prix, quoi. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que comme ça a duré très longtemps, j'ai été endetté, parce que je me retrouvais à payer les crédits, les frais de copropriété. De plus, avec ma femme, ça a créé des tensions. On s'est séparés, on pouvait plus vivre sous le même toit. Et comme vous dites, ça a créé des SDF. Moi, j'ai été SDF pendant 1 an et demi avec une gamine de 4 ans. Et mon fils de 5 ans.
Parce que vous n'avez pas réussi à récupérer vos loyers pendant un temps, donc. Voilà, et comment ça s'est terminé, l'histoire?
Au bout de 3 ans, ça s'est concrétisé. Les 2 appartements étaient vides. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai vendus, mais je les ai vendus à perte.
D'accord.
Donc, en fait, dans l'histoire, j'ai perdu près de 150 000 euros.
Et quel était le profil de ceux qui occupaient et ne payaient pas vos appartements, alors, vous savez?
Au début, des bons profils, parce qu'en plus, j'avais mis ça, pour ne pas citer Foncia.
D'accord, qui l'agence immobilière.
Voilà, qui s'occupe de ça. Donc, c'était traité toujours en commission. D'accord. Pour voir si les gens étaient solvables. Mais au bout d'un moment, ils ne payent plus, et puis voilà.
Donc c'était des gens qui avaient un bon dossier de base.
Ça veut dire que c'est prémédité dans ce cas-là, le fait de ne plus payer.
Oui, je pense que tout c'était prémédité. Et puis moi, en étant je vais pas dire un bon Français, un bon citoyen, je dirais, voilà. Moi, quand je ne peux plus payer, je vais chercher ailleurs.
Mais on déménage pour moins cher.
Je vais pas endetter les autres, quoi.
Bien sûr.
Dire, moi, oui, c'est votre problème et pas celui du propriétaire.
Mais alors, Christophe, justement, vous allez écouter Marie Rotman qui est avec nous. Bonjour, Marie. Vous êtes chargée de prévention contre les expulsions à la Fondation Abbé Pierre. Donc, la nouvelle loi, elle est là pour protéger des gens comme Christophe, Marie Rotman.
En réalité, cette nouvelle loi ne va pas protéger les gens comme Christophe parce que la loi a déjà mis en place un certain nombre de dispositifs de prévention. Ce qu'il faut, c'est que l'État remplisse ses obligations, que l'État reloge les personnes qui ont fait une demande de logement social, que l'État reloge les ménages prioritaires d'Allo, que l'État lutte contre les logements vacants. C'est effectivement pas à des personnes comme Christophe de gérer la crise du logement dans laquelle le pays est aujourd'hui. Hein, c'est à l'État de remplir ses obligations. Donc la loi protège déjà suffisamment. Ouais. Là, on va, si vous voulez, réduire certains délais, mais certains délais qui permettent de trouver des solutions. S'il y a des dispositifs de prévention,
4 ans.
C'est pas contre le locataire, c'est pour que le propriétaire récupère son argent. À partir du moment où il y a un impayé, il faut pas penser expulsion forcément. Il faut penser remboursement de l'impayé. Et tous les dispositifs qui sont mis en place.
Il y a des impayés, moins
en tant que les locataires, ils sont là, madame, ça court, les dettes s'accumulent aussi.
Les dettes s'accumulent, bien sûr, mais si on met en place des dispositifs, il y a des aides qui existent qui peuvent rembourser les impayés aux propriétaires. Et je peux vous dire que malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui refusent ces aides.
Il n'y a pas la garantie de loyer universel devait être mise en place, normalement.
Il n'y a pas la garantie de loyer universel, c'est bien ça la problématique. Elle devait être mise en place en 2014, elle a été votée en 2014. Elle n'a jamais été appliquée et puis elle a été complètement remise en cause et tombée aux oubliettes. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, des gens comme Christophe seraient protégés.
Donc voilà, on peut pas un peu responsabiliser les gens, ouais. Bien que l'État doit s'occuper de tout le monde. Il y a des situations de précarité.
Mais pardon,
il y a aussi des gens. C'est la vie. On a des accidents de parcours. On a tous déménagé parce qu'on pouvait plus payer son loyer. On prend un petit loyer, etc. On se débrouille.
Alors, on arrête d'être acculé pour se dire qu'on peut plus.
Voilà. Est-ce que vous pensez que quand on se retrouve en maladie grave, quand on perd son conjoint, quand on se sépare, quand on perd son emploi, puisque ce sont la quasi-majorité des personnes qui se retrouvent en impayé, est-ce que vous pensez que quand on a des ressources diminuées de moitié, voire plus de ressources du tout, on peut trouver un logement dans le parc privé? Non, c'est pas possible. Et est-ce que vous pensez qu'on peut accéder au logement social? Non, il y a 2,2 millions de personnes qui attendent un logement social. Donc oui, c'est la responsabilité de l'État. L'État doit mettre en œuvre les politiques.
Le problème, c'est que la loi protège. On est d'accord, mais bien sûr, vous avez raison. Mais la loi protège autant le malhonnête que la personne honnête.
Non, elle protège beaucoup plus le malhonnête. Là,
c'est ça, elle protège pas beaucoup plus le malhonnête.
Bien sûr que si, la sanction n'est pas la même.
Non, c'est faux, madame, parce que.
Si, je vous dis que la sanction est beaucoup plus élevée pour
un droit de logement et il y a un droit de propriété, d'accord. Être expulsé, vous imaginez ce que ça représente?
Mais pour les gens malhonnêtes, ça devrait se faire tout de suite.
D'accord. Mais alors, vous imaginez-vous que les gens sont malhonnêtes? Mais est-ce qu'on est malhonnête quand on perd son emploi? Est-ce qu'on est malhonnête?
Les gens qui profitent du système.
C'est ce que disait Christophe tout à l'heure.
Mais Christophe, je comprends sa situation et je la trouve dramatique. Mais il dit lui-même, je pense que ce sont des personnes malhonnêtes. Au moment où les gens ont pris le logement, peut-être qu'ils avaient les moyens et peut-être qu'ils ont perdu.
Mais il l'a dit lui-même, il n'y avait aucun dialogue possible.
Dans ce cas-là, ils s'en vont.
Oui, il n'y avait pas de dialogue. Ça,
où est le problème? Dans ce cas-là, ils s'en vont.
Ils ne restent pas pour accumuler.
Non, mais il faut arrêter de dire que l'État prenne pour en charge. C'est aux gens de se prendre en main et de se dire qu'on va trouver des solutions.
Si vous avez le SMIC, vous pouvez trouver un logement dans le parc privé. Bon courage.
Pas à Paris, mais oui.
Non, pas à Paris.
Non, mais madame, si vous permettez.
Vos enfants sont à Paris. Oui,
enfin,
Non, c'est trop simpliste, en fait.
Madame, si vous permettez, de la même façon qu'il existe de l'hébergement temporaire pour les personnes âgées quand elles sont entre, par exemple, un soin de suite et une EHPAD, et où on a des difficultés à trouver une place en EHPAD, il y a maintenant ce qu'on appelle l'hébergement temporaire. Est-ce qu'on ne peut pas créer, en quelque sorte, des hébergements temporaires pour ces personnes-là? Parce qu'on ne mettrait pas en péril comme ça les gens qui sont propriétaires et qui, des fois, eux, passent aussi dans la pauvreté, parce qu'ils ont eu, malencontreusement, la rencontre avec des gens qui ne veulent plus régler leur loyer, quoi. C'est là quand même une problématique d'État. On a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et on file la patate chaude aux propriétaires.
C'est pas aussi simple que ça.
Oh bah, excusez-moi, c'est jamais aussi simple, quoi.
Alors, ben non, c'est pas aussi simple.
Mais faut arrêter d'être
surtout pas simple
de victimisation.
Laissez répondre, madame,
c'est pas simple de défendre les propriétaires.
Je ne victimise personne. Les situations tant des propriétaires que des locataires sont dramatiques. D'accord? Mais on va pas opposer une précarité à l'autre. un locataire en difficulté, un propriétaire en difficulté sont tous les deux malheureux.
Oui, la loi est du côté du locataire aujourd'hui.
La loi n'est pas du côté du locataire.
Bien sûr que
le propriétaire peut saisir un juge si le propriétaire.
Oui, mais ça dure 4 ans.
Mais madame, ce que je veux dire, madame, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être de droite, on peut être de gauche. Il y a un truc qui s'appelle la propriété privée.
Oui, et il y a un truc qui s'appelle,
il y a un truc qui s'appelle le bien privé que quelqu'un a construit une fois qu'il a réglé toutes ses taxes, tous ses impôts, toutes les charges à l'État, avec l'argent qui lui reste, il fait une propriété. Des gens s'arrogent de la prendre et de la garder. Ça serait plus du domaine de l'État de créer des places pour ces gens-là que de donner la patate chaude à la personne qui, avec le maigre pécule qui lui reste, a construit un bien.
Et madame, de dire qu'un squatteur est de...
Oui,
bien sûr.
Je m'exprime. Face à ce droit de propriété, il y a un droit au logement, d'accord ? Je comprends, il y a effectivement des propriétaires comme Christophe qui se retrouvent acculés, qui ont des difficultés. Rappelons quand même que 75% des logements loués appartiennent à des multipropriétaires, d'accord ? Et que la majorité des bailleurs a des revenus bien plus élevés que le reste de la population. Pour replacer dans un contexte, il n'y a pas que des petits propriétaires comme Christophe qui pâtit de ces difficultés, d'accord ? Il y a beaucoup de bailleurs institutionnels, il y a les bailleurs sociaux bien évidemment, et il y a beaucoup de petits bailleurs privés qui ont 10 logements ou plus. Trois quarts, d'accord ? Donc, déjà, replaçons ça dans son contexte. Oui, l'État devrait trouver des solutions. Ça ne me choque pas du tout.
Non, c'est je comprends bien, c'est le principe même. Vous êtes dans un combat idéologique contre la propriété privée.
Est-ce que je viens de dire que ça me choquait ?
Vous avez fait une réflexion, là, on l'a entendu.
Non, je rétablis la réalité des choses. Tout le monde, chaque propriétaire n'est pas en difficulté. D'accord ? Quand on a 10 biens en location...
Et donc, il n'a pas à se battre pour récupérer son logement.
Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas sauver Christophe aussi ?
Il a à se battre pour récupérer son logement, comme tout le monde a à se battre. Mais il y a une responsabilité, encore une fois, de l'État, et il y a des aides aides vis-à-vis des bailleurs qui peuvent être déployées.
L'État qui loge tout le monde, ça s'appelle l'URSS, madame. Hein, c'est
et là, vous parlez des gens honnêtes.
C'est parce que dit madame Rotan.
C'est une activité lucrative, la location, les loyers ont augmenté de 50% en 10 ans, le taux de l'immobilier a augmenté. Vous savez qu'il n'y a pas que des personnes qui se retrouvent en impayé.
Non, il y a des squatteurs qui rentrent par effraction, c'est vrai.
Il y a des squatteurs également. Et il y a aussi, j'allais vous parler des congés. Vous habitez dans votre logement depuis 18 ans. Il y a une étude qui vient de sortir.
Non, mais là, le sujet, c'est la loi anti-squat.
Oui, non, mais la loi anti-squat comporte des dispositions anti-locataires, madame. Et elle veut les pénaliser. Elle veut considérer que c'est un vol et les mettre en prison. Est-ce que vous trouvez ça normal et pas choquant que des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur conjoint,
ils ont commis une infraction en fait.
Grave. Ce n'est pas une infraction à un impayé de loyer, madame. Je pense que si vous êtes avocate, vous devriez
ne pas payer un loyer, c'est un problème. Et squatter, rentrer par effraction, si c'est une infraction.
Alors, le squat, c'est autre chose, mais la loi est suffisante. Mais la loi est suffisante aujourd'hui.
Bah, la preuve que non.
Regardez Christophe.
C'est pas parce que la loi. Mais
la preuve que non, on a des témoignages qui disent le contraire.
Vous me parlez de squat et vous revenez à des impayés de loyer. Alors attention, cette proposition de loi a eu le malheur de créer une confusion. Ce sont des situations différentes. La loi
est
de manière.
Oui, mais ça, il n'y a pas. Oui,
là, on parle des
squats. Là, le sujet, c'est les squats. Voilà.
Merci Marie-Antoine, merci d'avoir été avec nous.
Ce sont des locataires en impayés.
Merci, merci de vos explications, merci d'avoir été avec nous. On va regarder la consultation. La nouvelle loi anti-squat va-t-elle créer des SDF ? C'est un non à 72% pour ceux qui ont participé à notre discussion.